France Inter, le 18-20.
Il y a un objectif de fin d'épidémie, il a été fixé par l'OMS, fin d'épidémie du sida, 2030, et c'est possible, on le verra ensemble. En tout cas, on a ce qu'il faut en termes de traitement pour que le virus ne se transmette plus. Et pourtant, quelques chiffres requièrent notre attention à tous. 25 000 personnes sont séropositives en France et l'ignorent. 6 000 personnes chaque année chez nous sont contaminées, chez nous en France. On verra si c'est un problème de prévention, de campagne, de ciblage des personnes les plus à risque. Est-ce que ce fameux Truvada, cette pilule préventive, prophylaxie, pré-exposition en langage bien plus scientifique, est-ce que ça fonctionne? Auprès de qui? Comment ça marche? Dans quelques jours, le 1er décembre, se tiendra la traditionnelle journée internationale de prévention contre le sida. Toutes ces questions sont la preuve que cette journée n'est pas superflue, voire qu'elle est plus que nécessaire. Et vos questions, bien sûr, sont les bienvenues sur France Inter.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et c'est Sébastien qu'on a en ligne et qui est le premier. Bonsoir Sébastien, soyez le bienvenu dans le téléphone sonne, on vous écoute.
Bonsoir. Alors effectivement, j'ai appelé pour donner un témoignage. Donc j'ai 28 ans. Je me rappelle encore mes années de collège et de lycée. Et ce qui m'a toujours choqué, c'est que les personnes qui intervenaient pour nous parler de sexualité, bah, c'était nos profs, notamment au collège, la prof de SVT. Et c'est super bloquant. Alors déjà, moi, à titre personnel, c'était quelqu'un que j'appréciais pas énormément, et qu'elle me parle de sexualité, de préservatif, et ben ça passait pas. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment eu une vraie session de qui concerne la sexualité.
Vous vouliez de l'éducation sexuelle au plan vraiment, et vous n'en avez pas eu, Sébastien. C'est ça que vous nous dites, en fait.
Voilà. Ouais. Alors, je considère que j'en ai pas eu, tout simplement parce que la personne qui intervenait, c'était une personne qu'on connaît, parce qu'on la voit tous les jours. Et en plus, si on ne s'entend pas avec cette personne, avec ce prof, c'est super délicat de discuter de sexualité. Alors moi, l'idée que je peux proposer, hein, c'est qu'on arrive là effectivement à la date du 1er décembre, bah, c'est que ça soit une peut-être dans une réforme au niveau de l'école, que ça soit des intervenants extérieurs qui puissent parler de sexualité et de prévention. Et je pense que ça va aussi libérer les élèves pour pouvoir poser des questions et pas se sentir bête avec des élèves que l'on connaît et peut-être que
On a bien compris votre préoccupation, votre question, Sébastien. Merci beaucoup. Pour vous répondre et pour discuter tout au long de cette heure avec nous au téléphone sonne, Florence Thune, bonsoir. Vous êtes directrice générale de SIDAction. Bonsoir aussi, Jean-Michel Molina. Bonsoir. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis à Paris, responsable aussi, on y viendra, de l'essai scientifique ANRS Hyper-Arguet, qui est cette fameuse pilule préventive. Je le dis comme ça, je sais que c'est pas exactement comme ça qu'il faut en parler, mais on y viendra ensemble. C'est pour vous cette question, Florence Thune, directrice générale de SIDAction. Quand Sébastien dit, moi je suis de la génération où pourtant il a 28 ans, donc on est vraiment en plein dedans, on ne m'explique pas vraiment et on le fait tellement mal que finalement ça ne m'apprend rien.
Alors déjà on sait qu'il y a uniquement 10 à 20% des élèves qui reçoivent effectivement une information au lycée, alors qu'il devrait y avoir 3 heures par, en tout cas 3 sessions par an au collège et au lycée. Et évidemment, quand c'est un professeur, alors je trouve que déjà si c'est un professeur qui en parle, c'est déjà bien, parce qu'il y a des professeurs qui n'en parlent pas du tout. Mais en tout cas, effectivement, quand c'est un professeur qui en parle, c'est plus compliqué de parler sexualité et parler librement. Or on sait en même temps qu'il y a déjà des associations qui interviennent, et on sait à quel point le dialogue et l'échange se fait vraiment de manière plus aisée. Ça m'est arrivé moi-même d'intervenir dans deux écoles différentes, une fois avec des profs et une fois sans profs. Autant dire qu'il n'y a pas photo, entre guillemets. Hein. C'est les élèves discutent plus facilement. C'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est plus facile.
Mais ça nous met au cœur du sujet finalement, Jean-Michel Molina, parce qu'on va beaucoup parler prévention, peut-être d'un souci de prévention, puisqu'il reste des chiffres qui sont préoccupants. Ce que nous dit Sébastien, c'est que la prévention, ça marche mal. En fait, et j'imagine que vous le voyez vous aussi tous les jours.
Tout à fait, je crois que les chiffres que vous avez annoncés sont assez préoccupants. Depuis 10 ans maintenant, le nombre de nouvelles découvertes d'infections par le VIH en France ne diminue pas.
On est dans l'incompressible en fait, curieusement en fait.
Enfin, en tout cas, je crois qu'il est nécessaire de renforcer la prévention, renforcer les messages de prévention. Il y a maintenant des nouveautés en termes de prévention contre le virus du sida, donc je crois qu'il est important que les messages soient entendus et que les personnes concernées soient bien informées et puissent avoir accès à ces moyens de prévention.
Alors justement, les personnes bien informées, est-ce que ça veut dire, vous pourrez répondre tous les deux, Florence Thune, qu'il faut aller directement vers la cible? Parce que quand on regarde qui sont ces 6000 personnes qui sont contaminées tous les ans, on sait qui c'est. 40% d'homosexuels, 40% de migrants venus d'Afrique subsaharienne notamment, où l'épidémie effectivement est toujours très importante, 20% d'hétérosexuels. Est-ce qu'il faut se dire, on fait de la prévention ciblée, on arrête de faire de la prévention à très large échelle, ou pas? Alors, ou les deux,
oui,
par ailleurs.
Ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment faire les deux. C'est absolument nécessaire de faire la prévention ciblée. Les gens doivent se reconnaître à un moment dans les actions de prévention. Et c'est vrai qu'on est toujours plus interpellé quand une personne qui fait de la prévention nous ressemble ou effectivement, on se reconnaît dans cette prévention. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue une prévention plus générale, alors qui est sur le VIH, mais qui est aussi sur l'ensemble des infections sexuellement transmissibles, sur la santé sexuelle de manière générale. Et ça, ça concerne toutes les personnes, tous les jeunes notamment. Mais effectivement, renforcer les actions ciblées de prévention, c'est extrêmement important.
Jean-Michel Molina, comment ça se fait? Est-ce qu'on sait pourquoi il reste 6000 contaminations par an quand d'autres pays, d'autres grandes villes descendent progressivement? Pourquoi on reste vers ce chiffre que j'appelais incompressible tout à l'heure, mais pourquoi on progresse plus, nous?
Bien, écoutez, je crois qu'il y a probablement plusieurs raisons à cela. Encore une fois, la prévention est donc insuffisante en termes d'infection par le VIH. Je crois qu'il est absolument indispensable de marteler effectivement ce discours de prévention, utilisation du préservatif, de nouveaux outils. Vous avez parlé de cette pilule préventive. C'est, je crois, une révolution dans la prévention maintenant. Il va falloir déterminer de quelle façon mieux informer les gens et mieux leur donner accès à cette pilule préventive pour ceux qui le souhaiteraient. Et puis je crois qu'il y a, il faut le savoir, dans le domaine du VIH, effectivement, une grande partie de ces nouvelles contaminations qui sont liées à des transmissions de l'infection par des personnes au stade de la primo-infection, à un stade où on ne peut pas encore dépister l'infection. C'est ce qu'on appelle la phase muette de l'infection, pendant laquelle les gens sont extrêmement contagieux et eux-mêmes ne savent pas forcément qu'ils sont porteurs du virus. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel, au-delà du dépistage qu'il faut renforcer, de pouvoir mieux accompagner les personnes dans la prévention, notamment les personnes qui sont exposées. Vous avez cité un certain nombre de groupes chez lesquels on diagnostique un grand nombre d'infections.
Des groupes à risque.
Voilà, des groupes à risque. Et il faut effectivement, dans ces groupes, identifier les personnes qui sont les plus à risque et leur permettre d'avoir accès de façon plus importante, en tout cas à la prévention.
On a beaucoup dit, Florence Thune, qu'il y avait aussi une relâche dans le comportement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça qui explique ce chiffre-là? Est-ce qu'il existe vraiment un relâchement de comportement ou pas?
Alors, ça dépend des situations. On est, par exemple, sur les jeunes, on peut voir qu'il y a souvent une utilisation du préservatif au premier rapport, par exemple. C'est, l'attention se relâche, en fait, sur la durée, avant de faire un dépistage. Et puis, je pense qu'il y a une certaine aussi lassitude sur le préservatif, dont quand on parle depuis si longtemps. Les gens ont envie d'oublier que amour et sexualité, c'est forcément égal transmission du VIH égale mort. Donc, il y a aussi plein de choses qui peuvent expliquer qu'effectivement, il puisse y avoir ce qu'on appelle un relâchement. Mais qui, à mon avis, on doit pas être jugé. Enfin, je pense qu'on doit surtout pas le voir sur un plan moral. Ne pas utiliser le préservatif, ça arrive parfois et on n'est pas toujours en situation de pouvoir le faire.
Tiens, question intéressante, puisqu'on parlait de cours de sexualité avec Sébastien à l'instant, qui nous vient sur franceinter.fr. Et des cours mixtes et non mixtes pour expliquer aux jeunes les maladies sexuellement transmissibles et le sida, notamment en SVT, parce que les filles et les garçons n'ont pas la même façon d'en parler. C'est ce que nous demande Anaïs. Elle a raison, Anaïs, on n'en parle pas pareil, surtout quand on a 14 ou 15 ans.
Oui, alors moi j'ai été très frappée par une intervention où on parlait effectivement préservatif dans une classe mixte, dans garçons et filles. Et après l'intervention, après le cours, deux jeunes filles sont venues me voir en me disant « Vous savez, nous on a un préservatif dans notre sac, mais on ne pourrait pas dire ça devant les garçons. Parce que nous, on est pris tout de suite pour des salopes, ben voilà, ils m'ont dit le terme. Alors qu'un garçon qui aurait le préservatif dans son sac, enfin dans sa poche, lui serait pris pour quelqu'un de sérieux. Et c'était frappant en 2015 de voir des jeunes filles qui ne pouvaient pas exprimer les questions de sexualité. Donc, je pense que parfois, il y a certains groupes qui facilitent la parole entre filles ou entre garçons, oui, sûrement.
Loïc nous appelle au 01 45 24 7000. Loïc, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question.
Allez-y.
J'aurais voulu savoir si on généralisait le dépistage, si cela pourrait endiguer la maladie, en fait.
Si on le rendait obligatoire, en gros, c'est ce que ça veut dire, Loïc.
Obligatoire, oui, obligatoire, pourquoi pas. Après, ça peut choquer l'obligation de se faire dépister, mais oui. Oui, est-ce que ça pourrait endiguer ?
Merci pour votre question, Loïc, c'est pour vous, Jean-Michel Molina. Est-ce qu'on y a songé un moment ? Est-ce que ça changerait quelque chose, un dépistage obligatoire ?
En tout cas, je crois qu'on ne peut pas rendre ce dépistage obligatoire, car il faut expliquer les raisons pour lesquelles on fait ce dépistage et pouvoir, j'allais dire, mettre les personnes à l'aise avec un dépistage. Je crois qu'il faut surtout le renforcer et le répéter plus souvent, notamment chez les personnes qui ont des comportements à risque. Donc je crois qu'il y a une double stratégie, une stratégie de dépistage généralisée, au moins une fois dans la vie pour chaque personne. Et puis il faut, à partir du moment où on a des situations qui exposent au risque de contamination, c'est-à-dire on a des partenaires multiples par exemple, eh bien il faut savoir répéter le test plusieurs fois par an, et on estime aujourd'hui que dans les populations les plus à risque, il faut faire un dépistage tous les 3 mois.
C'est ça, l'idée de le faire tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 5 ans n'aurait aucun sens en fait.
Sur le plan de l'épidémie, on voit bien qu'il est important de répéter le dépistage de façon à ce que, si le dépistage est négatif, on puisse renforcer sa prévention par le préservatif, par la pilule préventive. Et s'il est positif, qu'on puisse être traité rapidement, car on sait qu'une personne traitée avec une charge virale indétectable, grâce à la trithérapie, ne va plus pouvoir transmettre le virus à ses partenaires.
C'est donc ça, il faut le redire peut-être et le re-redire. On ne contamine plus lorsqu'on a commencé le traitement. C'est important de le re-redire en fait.
Lorsqu'on a commencé le traitement, qu'on le prend régulièrement.
Alors, et qu'on le fait évidemment sérieusement.
Voilà, et que cela peut être surveillé par des tests biologiques qui permettent d'assurer que dans le sang, le virus ne se réplique plus. Et dans ces conditions-là, ce qui arrive en général après plusieurs mois de trithérapie, disons au bout de 6 mois de charge virale indétectable, eh bien effectivement, on peut rassurer les personnes et les couples sur le fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de risque de transmission au sein du couple, par exemple, ce qui permet aux femmes d'avoir des enfants sans risquer de transmettre le virus à leurs enfants, par exemple.
Je voudrais qu'on écoute Lucie, qui nous appelle sur France Inter. Bonsoir, Lucie.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Lucie, on vous écoute.
Merci pour la qualité de vos émissions. Alors moi je vous appelle, c'est un peu particulier, mon compagnon et moi ne vivons pas ensemble et pour des raisons professionnelles, il a pris une colocation. Dans cette colocation, ils sont 3 personnes et en fait par hasard, en fait, mon compagnon a découvert que l'un de ses colocataires avait le sida. Il l'a découvert, en fait, il y avait des médicaments dans la salle de bain, c'était un peu sa partie, donc voilà, il a compris certaines choses. Et voilà, on n'en a jamais parlé avec ses colocataires. Je ne sais pas qui c'est quoi dans l'histoire, mais il y a 2 choses qui me gênent beaucoup dans cette situation. Il y a le non-dit, et puis j'ai beau être totalement rationnelle et être certaine que quand vous me dites que c'est pas contagieux, c'est pas comme ça qu'on attrape le sida, ben quand même, il y a une partie de mon cerveau qui n'est pas rationnelle et qui est super gênée d'être là-bas, et mon compagnon aussi. Quoi.
Et quel âge avez-vous, Lucie, par curiosité, pardon ?
Moi, j'ai 28 ans.
Vous avez 28 ans et ce que vous avez entendu du sida, ce qu'on vous en a appris, ce qu'on vous en a dit, ça ne vous a jamais rassuré ou ce que vous en avez lu peut-être ?
Mais si, je suis totalement rationnelle. Je comprends que le sida, ça s'attrape par l'échange de fluides et donc il faut du sang, du sperme, vous savez. Mais en fait, déjà, il y a aussi un peu l'étrangeté de la situation. Et voilà, enfin, et puis... Ouais, le non-dit, en fait, qui me gêne beaucoup dans cette histoire.
Et aucun d'entre vous...
Je trouve qu'on nous l'a imposé, en fait.
Et ça veut dire qu'il aurait dû se présenter, selon vous, Lucie, ce colloque, en disant, voilà, moi, je suis séropo. Est-ce que vous m'acceptez quand même ? Ça aurait été peut-être compliqué de son côté, non ?
Peut-être pour lui, mais nous, on aurait fait un choix en âme et conscience. Moi, je ne suis pas colocataire de cette colocation-là. Enfin, par contre, je ne peux pas y vivre non plus, je ne peux pas y aller le cœur léger en fait.
Et Lucie, pardon, mais je vous posais la question comme ça. Si c'était vous, si la question avait été posée, est-ce que vous auriez dit oui ou non au colocataire ?
Je ne sais pas. Ça dépend de la personne, ça dépend du ressenti aussi. Enfin, il y a d'autres choses aussi. Hein. Il n'y a pas que ça, quoi.
Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la maladie, vous voulez dire ?
Oui. Dans l'acceptation de cette personne-là, quand on aime une personne, quand on apprécie un ami, il n'y a pas que sa situation sanitaire. Quoi.
En tout cas, personne n'a songé à lui en parler à lui, visiblement. En tout cas, personne n'a essayé de le confronter, lui dire on a vu les médicaments.
Secret. Ouais. C'est son secret, c'est pas le nôtre, quoi.
D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage, Lucie. Je vais arrêter de vous cuisiner, mais merci beaucoup vraiment pour ce témoignage. Et merci aussi pour ce que ça dit, Florence Thune, ce que raconte Lucie, qui parle finalement très joliment de ce qu'il y a de rationnel chez elle et ce qu'il y a d'irrationnel. Comment on fait pour rassurer Lucie, en fait ? Parce que c'est ça qu'il faut faire.
Alors si Lucie nous écoute toujours, j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle y aille de cœur léger. Moi je vis avec le VIH depuis 20 ans et je pense que je n'aurai pas assez de mots, on n'aurait pas assez de temps dans cette émission pour tenter de vous convaincre qu'il n'y a absolument aucun risque, que si la personne a fait le choix de pas en parler, de pas partager ce secret, parce que c'est effectivement souvent difficile de pouvoir en parler, mais rassurez-vous sur le fait que vous n'avez aucun risque, absolument aucun risque. Et quand on venait de dire là à l'instant que, par exemple, les traitements permettaient notamment de prévenir la transmission du VIH, y compris dans des relations sexuelles, c'est-à-dire que on peut avoir des relations sexuelles sans préservatif avec une personne qui est sous traitement et qui a une charge virale indétectable, il y a zéro risque. Alors imaginez, voilà, pour discuter avec elle, lui serrer la main, lui faire la bise, boire dans le même verre qu'elle, et ce dont cette personne a besoin, c'est que vous puissiez aller la voir le cœur léger. Et c'est encore ce dont souffrent beaucoup de personnes séropositives aujourd'hui.
Et peut-être que c'est parce que, moi je connais pas ce colocataire, donc je veux pas imaginer, mais peut-être que c'est parce qu'il sent aussi cette tension autour de lui que c'est compliqué d'en parler. Jean-Michel Molina, ça dit l'énorme travail de prévention qui reste à faire, d'explication surtout qui reste à faire.
Et puis surtout, on se rend compte combien cette infection est encore stigmatisée aujourd'hui. Oui. Je pourrais dire également que...
Discriminante même, allons-y franchement.
Tout à fait. Je crois qu'il faut mieux informer sur les risques de transmission, manifestement, continuer à expliquer aux plus jeunes comment l'infection se transmet. Effectivement, elle ne se transmet que par les rapports sexuels. Et d'autre part, rappeler qu'une personne qui prend des médicaments aujourd'hui... dans la mesure où on a maintenant cette pilule préventive qui utilise les mêmes molécules que les molécules utilisées pour le traitement, une personne qui a une boîte de médicaments, vous ne savez pas si cette personne est séropositive et prend un traitement pour se soigner, ou si elle est séronégative et qu'elle prend un traitement pour se protéger. Je pense également qu'une personne qui laisse sa boîte de médicaments visible dans la salle de bain, ça envoie un message également aux autres colocataires, probablement pour interpeller et vouloir amorcer peut-être une discussion. C'est effectivement très difficile pour les personnes qui sont séropositives d'en parler à leur entourage, car elles ont extrêmement peur des réactions négatives que cela pourrait entraîner. Et combien de personnes que je suis en consultation me disent que elles ne peuvent pas en parler sur le lieu de travail, elles ne peuvent pas en parler à leurs proches, à leurs enfants. Et donc, je crois qu'au contraire, cette personne-là qui laisse sa boîte de médicaments accessible, elle envoie un message à ses colocataires. Voilà, abordons la question, parlons-en et acceptez-moi tel que je suis, en quelque sorte.
Une interrogation sur les chiffres qu'on donnait tout à l'heure sur franceinter.fr. Comment peut-on affirmer que 25 000 personnes ignorent être séropositives puisqu'elles l'ignorent elles-mêmes? Comment compter ces personnes qui s'ignorent? Florence Thune, c'est une bonne question. Comment on compte les personnes qui s'ignorent?
C'est basé sur des études réalisées par des chercheurs en épidémiologie notamment. C'est pas mon métier, donc je serais bien incapable de effectivement de vous expliquer quels sont les calculs. C'est aussi en fonction du nombre de personnes qui sont déjà contaminées. Professeur Molina pourrait sûrement mieux m'expliquer, mais c'est effectivement une projection sur le taux actuel.
Marie nous appelle au 01 45 24 7000. Marie, bonsoir. Et on vous écoute,
bonsoir.
Marie.
Oui, bonsoir, vous m'entendez?
Absolument, on vous entend très bien.
Merci d'avoir pris mon appel. Voilà, moi en fait, j'ai travaillé pendant 5 ans avec l'association Aide en Guyane française. Et je voulais juste qu'on n'oublie pas la lutte aussi qui est en place en Guyane française et dans les dom-toms, parce qu'elle elle part de très loin par rapport à la prévention où on est en France. Et, voilà, je pense à eux et à toutes les personnes qui vivent avec la maladie et la grosse discrimination qui existe là-bas encore.
Merci beaucoup Marie pour ce témoignage. C'est vrai Florence Thune que c'est plus compliqué dans les dom-toms.
Oui, on sait encore là sur les derniers résultats que la Guadeloupe est le département le plus touché en termes de proportion par rapport au nombre d'habitants. Malheureusement, et par exemple sur un territoire comme la Guyane, les structures de santé sont très éloignées, les gens doivent faire beaucoup de routes pour accéder au traitement. Donc on est vraiment sur la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe, sur des situations très inquiétantes et très en recul par rapport à ce qu'on peut trouver en métropole en termes d'accès et facilité au traitement. Donc ça, c'est une... Effectivement, c'est vraiment une cible importante aussi en termes de priorité.
Ce message qui nous vient sur franceinter.fr, j'ai 50 ans, je suis solo depuis 3 ans. Je suis en train de regarder, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme qui nous parle, mais ça n'a aucune importance. Je m'aperçois avec effroi que les hommes n'ont plus le réflexe de mettre des capotes lors du premier rapport sexuel. Si je vais chez le monsieur, il m'annonce à la dernière minute qu'il n'en a pas. Si je ramène le monsieur chez moi, il me fait tout un sketch pour ne pas mettre de capote. Et pourtant, j'en ai plein le tiroir. On parlait du relâchement tout à l'heure lié à la capote. Florence Thune, c'est un témoignage qui va dans ce sens, effectivement.
Et oui, tout à fait, et qui rejoint d'ailleurs la proportion de personnes de plus de 50 ans qui découvrent leur séropositivité chaque année, puisqu'on est à plus de, alors l'année dernière, plus de 20%.
C'est là que je voulais vous emmener. Il n'y a pas que les jeunes, en fait, hein, loin de là, d'ailleurs, qui sont les plus, pardon, je vais mettre des guillemets, ignorants des choses de prévention.
Oui, et puis on a, alors les histoires sont différentes, mais on peut arriver à 50 ans après un divorce et par exemple voilà, envie de se relâcher, on se sent plus concerné parce que finalement on a aussi oublié les bons réflexes. Et ça, effectivement, c'est une constatation qu'on fait. On parle beaucoup des jeunes, mais je pense qu'il ne faut pas oublier effectivement les personnes de plus de 50 ans.
Jean-Michel Molina, une question dans ce sens aussi sur franceinter.fr. Je voulais que nous parliez un petit peu de cette fameuse pilule préventive. Comment ça marche? C'est le Truvada qu'on trouve en France en ce moment. Comment ça marche réellement? D'abord, est-ce que c'est terriblement efficace? Comment ça fonctionne?
Alors effectivement, cette pilule préventive, c'est la combinaison de deux molécules, le tenofovir et l'emtricitabine, qui sont maintenant accessibles comme génériques, hein, d'ailleurs, qui sont utilisés depuis plus de 15 ans pour le traitement des personnes infectées par le VIH, et dont on s'est rendu compte par des études qui ont été menées dans certaines, d'ailleurs en France, avec le soutien de l'Agence de recherche sur le sida, et qui ont montré que la prise de ces molécules par des personnes qui ont des comportements à risque mais qui ne sont pas séropositives, leur permet d'éviter une contamination. L'efficacité est extrêmement élevée puisque la réduction de l'incidence de l'infection quand on prend ces pilules est de plus de 90%, voire même plus élevée probablement puisque les rares échecs ont été observés chez des personnes qui ne prenaient pas correctement ces pilules. Donc je crois que ça c'est un message important pour dire qu'en termes de prévention, on ne dispose pas encore d'un vaccin, mais qu'on dispose à côté du préservatif d'un autre moyen de prévention qui permet, si le préservatif est mal utilisé ou pas régulièrement utilisé,
vous poser la question,
de se protéger.
Le Truvada ne dispense pas du préservatif, dans le meilleur des cas, non?
Je crois qu'il faut être clair. On a aujourd'hui, à côté du préservatif, cette pilule préventive. Mm-hmm. On n'a pas encore le vaccin. Nous aurions aujourd'hui un vaccin. Quel serait notre discours vis-à-vis du préservatif? Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que cette pilule, c'est un progrès remarquable en termes de prévention. C'est une pilule qui protège du VIH, mais pas des autres maladies sexuellement transmissibles. Donc si on veut se protéger du VIH, cette pilule peut être un moyen pour les personnes qui ont une utilisation irrégulière du préservatif, par exemple, ou dont le partenaire ne veut pas l'utiliser. Ça permet à la personne de se protéger elle-même, quoi que fasse son partenaire.
Mais elle est prescrite comment et par qui? Est-ce qu'il faut simplement aller chez son médecin en disant « Voilà, moi, mon comportement, c'est celui-là » et le médecin a le réflexe de lui dire « Je crois que c'est mieux si vous prenez effectivement du Truvada ».
Je crois que c'est
important
déjà...
C'est aussi simple que ça, en fait. C'était ça le sens de ma question.
C'est pratiquement aussi simple que cela, puisque cette pilule peut être prescrite aujourd'hui dans les services spécialisés à l'hôpital, mais elle peut être prescrite également dans les CEGIT, ces centres de santé sexuelle, qui offrent une prise en charge gratuite en termes de dépistage du VIH, de traitement. Et puis également les médecins généralistes, qui je crois, on en parlait tout à l'heure en termes d'éducation à la santé sexuelle, ont un rôle majeur à jouer également pour parler de prévention. Et donc je crois que toutes les personnes qui veulent parler des maladies sexuellement transmissibles, de prévention du VIH, devraient en parler avec leur médecin, qui est sûrement une personne également de ressources pour aborder cette question-là.
Voilà, bah écoutez, pas tout à fait médecin, mais infirmière scolaire. Bonsoir Christiane.
Bonsoir.
Et on vous écoute, allez-y Christiane.
Ben en fait, voilà, moi je trouve que les jeunes, ceux que je reçois en tout cas, sont plutôt assez au clair avec la prévention et l'utilisation des préservatifs. Mais quand j'ai eu des problèmes, c'était à chaque fois, ils demandaient un dépistage en urgence parce qu'il y avait une soirée avec des produits et de l'alcool qui désinhibe. Et puis ben voilà, il y a des rapports sexuels non protégés. Et puis ensuite, bah, c'est la panique.
Donc ça veut dire qu'il faudrait, à votre avis, quoi, je sais pas, qu'il y ait plus d'accès à des autotests. Est-ce qu'il faudrait, j'allais dire, les empêcher de boire en soirée? Ça devient compliqué.
Bah, donc... ça, c'est pas possible. Mais voilà, je fin, des fois, comment leur mettre dans la tête? Enfin, du coup, je leur distribue des préservatifs. Je me dis, ils en auront au moins dans les poches et bah, ils auront peut-être ce réflexe-là. Mais est-ce que plus d'associations dans les rêves parties pour distribuer des préservatifs que au moment où ils sont complètement désinhibés et qu'ils vont avoir un rapport, ils aient encore un...
Ils en ont encore un dans la poche, qu'ils aient le réflexe et qu'ils aient croisé quelqu'un pendant la soirée qui a pu leur entendre un. On voit bien ce que vous nous expliquez, Christiane, et on imagine très bien ce que ça peut être, Jean-Michel Molina.
Je crois que c'est l'intérêt justement de cette pilule préventive dans les situations, encore une fois, de groupe à risque. c'est comme une pilule, j'allais dire, contraceptive, mm-hmm, quelque part. Ouais. Hein. Vous pouvez la prendre à distance du rapport sexuel.
Donc, combien de temps, d'ailleurs? Allons-y, combien de temps avant?
Écoutez, vous avez deux façons de prendre ces pilules, soit tous les jours, comme une pilule contraceptive, mm-hmm, soit il faut les prendre au moins 2 heures avant le rapport, et les prendre également après le rapport, dans les 24 heures qui suivent. Donc, ça vous donne la liberté de prendre ces pilules, en se sachant protégé, même si vous risquez d'être sous l'emprise de l'alcool ou de certaines drogues, dans une situation où vous ne savez plus très bien si vous avez mis le préservatif, si le partenaire l'a mis ou pas. Ça s'adresse malgré tout, ce traitement préventif, à des personnes à haut risque. Mm-hmm. Tout le monde n'est pas concerné par cela. Vous avez parlé de populations les plus concernées, ce sont les jeunes, ou moins jeunes, mm-hmm, d'ailleurs, homosexuels masculins, ou bien des personnes originaires de pays d'endémie, mm-hmm, des migrants, chez qui, on sait, la circulation du virus est importante.
Bien sûr. Hein. Cette question, je pense que les informations quant aux transmissions du sida et autres MST sont finalement très peu développées chez les lesbiennes. Est-ce qu'elles sont moins touchées? Florence Thune, les questions comme elles viennent.
Alors, effectivement, dans les statistiques, ce qui est remonté, on a effectivement peu de cas. Alors, elles sont peut-être mises dans la case femmes, et on parle peu effectivement des lesbiennes, mais il y a peu de risques de transmission. En tout cas, c'est vrai qu'on en parle moins, en tout cas.
Oui. Et l'idée de cette transmission, la peur de cette transmission, Caroline nous appelle au 01 45 24 7000. Caroline, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Merci de prendre mon appel et merci pour vos émissions. Voilà, je voudrais savoir si à partir d'un certain âge, il est toujours nécessaire de se prémunir. Je m'explique, j'ai 70 ans, mm-hmm, mais il peut évidemment m'arriver de rencontrer quelqu'un. Et en outre, j'ai un compagnon qui n'est pas très fidèle. Donc je voulais savoir si je devais continuer à faire des tests. J'en ai fait régulièrement jusqu'à présent, mais est-ce que je dois continuer ou est-ce qu'on peut s'arrêter maintenant à cet âge-là?
Merci Caroline pour votre question. Jean-Michel Molina, est-ce qu'elle continue, Caroline?
Bien sûr, je crois qu'il est extrêmement important de continuer à faire des tests. Ce n'est pas une question d'âge, une question d'orientation sexuelle, c'est une question d'exposition à des partenaires différents. À chaque fois que vous avez une exposition à un partenaire différent, il y a un risque de transmission d'une maladie sexuelle. La meilleure façon d'éviter ces infections, si on n'utilise pas les moyens de prévention dont on vient de parler, le préservatif, voire cette pilule contraceptive, c'est de pouvoir tester les partenaires contre le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles pour être rassuré sur le fait que si on est dans un couple stable, effectivement que les dépistages sont négatifs, à ce moment-là, il n'y a plus de danger. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau partenaire, eh bien effectivement, il faut répéter les tests. Et répéter les tests, je crois que c'est très important de le souligner, y compris si on n'a aucun symptôme. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes d'infection sexuellement transmissible pour faire des dépistages. Il faut savoir faire ces tests systématiquement, car les infections sont souvent sans symptômes.
Une question qui nous vient aussi de franceinter.fr. Je ne trouve pas le prénom. Julien, pardon. Comment fait-on pour s'assurer qu'une personne qui dit avoir le VIH, mais n'être plus contagieuse, l'est vraiment? Est-ce qu'on lui fait confiance? Florence Thune, comment on fait pour faire confiance? Ça rejoint un peu ce que disait Lucie, finalement, tout à l'heure. Ça dit que cette peur, elle existe, elle est diffuse quelque part, en fait.
En fait, on parle de confiance depuis tout le temps. C'est-à-dire que, effectivement, on se disait, est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui me dit je suis séronégatif ou je suis séropositif? J'ai pas de réponse. Il faut effectivement pouvoir, à un moment, si en tout cas on rentre dans une relation stable, pouvoir faire ce test de dépistage et être sûr à deux, effectivement, que on est ou séronégatif ou séropositif, mais en tout cas agir en conséquence. Et tant que, effectivement, dans le cadre d'une relation sexuelle, si l'une des deux personnes n'a pas confiance, et on peut imaginer que ce soit le cas, et ben qu'elle utilise effectivement un préservatif. Il faut pas se mettre en danger. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours aussi en situation de pouvoir utiliser un préservatif. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il faut pouvoir refuser un acte sexuel. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, il faut savoir dire non parfois. Oui. Camille nous appelle. Bonsoir Camille.
Oui, bonsoir. J'avais une question assez simple relative à cette fameuse pilule qui viendrait aider à la prévention de la transmission du sida. Je voulais savoir si elle avait des effets secondaires et si oui, lesquels.
Jean-Michel Molina, merci beaucoup pour votre question, Camille. Jean-Michel Molina, effets secondaires ou pas?
Oui, comme tout médicament, c'est une pilule qui peut avoir des effets secondaires. Heureusement, ils sont minimes et en général peu graves, mais ils justifient une prescription médicale et une surveillance médicale pendant la prescription avec une surveillance qui, aujourd'hui, est recommandée tous les 3 mois. Donc, les personnes qui reçoivent cette pilule doivent aller voir leur médecin tous les 3 mois. Si on leur donne cette pilule, c'est qu'ils ont des comportements à risque. Et donc, il est indispensable de surveiller à la fois l'efficacité de cette pilule en refaisant des tests pour le VIH régulièrement tous les 3 mois. Et puis, en même temps, profiter de cette visite médicale pour dépister les autres infections sexuellement transmissibles et les traiter éventuellement.
L'intolérance, c'est possible? L'intolérance au Truvada, c'est possible ou pas?
C'est exceptionnel, on va dire. Hein. Il peut y avoir quelques troubles digestifs mineurs comme n'importe quel médicament. Et puis, il peut y avoir une toxicité à plus long terme, au niveau rénal éventuellement, qui nécessite une surveillance par des tests sanguins.
Question très pratique, très précise. C'est la vôtre, Fabrice. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Nous sommes en train d'échanger avec mes enfants sur cette question. Ils souhaitaient savoir si le sida se transmettait par le sang et au fœtus. Immédiatement et à chaque fois.
Eh bien, on va répondre à vos enfants, Fabrice, Jean-Michel Molina, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Hein. Est-ce que le sida peut se transmettre à un fœtus?
Alors, le sida peut se transmettre de la mère à l'enfant, hein, effectivement. Heureusement, là encore, les trithérapies permettent de réduire considérablement ce risque. Et même une femme séropositive aujourd'hui, si elle est traitée efficacement et en particulier dès le début de la grossesse, il n'y a plus de risque de transmission, là encore. On peut en tout cas l'éliminer, ce risque. Hein. Et c'est d'ailleurs une des grandes victoires des trithérapies, c'est d'avoir permis la quasi-élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant pendant la grossesse.
Là aussi, question pratique, question simple et question rapide. Grégory, merci beaucoup, bonsoir et on vous écoute.
Oui, bonsoir. Voilà, moi je vous appelais pour savoir un petit peu et connaître l'efficacité des autotests que l'on trouve en pharmacie, savoir leur efficacité et si c'est un bon système finalement pour se surveiller pour en cas de conduite à risque, et bien se tester pour voir où on en est en fait.
Florence Thune, directrice générale de SIDAction, ça marche bien l'autotest ou pas?
Alors ça marche bien, donc c'est un outil de plus pour effectivement vérifier si on en est séropositif ou pas. Son seul inconvénient c'est qu'il est cher.
Ouais, combien il coûte?
Il est encore à 25-28 euros, donc on trouve évidemment trop cher.
On en a vendu près de 240 000, 250 000 peut-être, non, depuis qu'il est en disposition.
Oui, en tout cas, 75 000 depuis le début de l'année.
Par an.
On peut voir que la plupart des personnes un grand nombre de personnes qui utilisent ces autotests n'avaient jamais fait de test avant. Et donc ça, c'est effectivement important.
Et est-ce que les lieux, on en trouve en pharmacie, bien sûr, mais il y a d'autres endroits, est-ce qu'il faudrait étendre je pense à l'infirmière scolaire qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Est-ce qu'il devrait y avoir des autotests chez les infirmières scolaires ou ailleurs?
Alors, bon, il faut aussi pouvoir être formé aussi pour accompagner les personnes à les conseiller sur l'utilisation de ces autotests. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'un certain nombre d'associations vont être en mesure aussi de proposer ces autotests. Donc, c'est une manière de plus de pouvoir diffuser ces autotests, et là, de manière gratuite, ce qui n'est pas le cas dans les pharmacies.
Je vis en Suisse, nous dit-on ici sur franceinter.fr. Je vis en Suisse, ici au lycée, et plusieurs fois par an, des collectes de sang ont lieu. Les élèves participent d'autant plus volontiers qu'on leur fait un dépistage gratuit du sida et autres MST. C'est une façon efficace de lutter. Qu'en pensez-vous, Jean-Michel Molina? Est-ce que c'est une manière efficace de faire ça de manière tellement simple, en fait, finalement? Puisque tout le monde va donner son sang, et ben on en profite.
Je crois que c'est très important de donner son sang, en tout cas. On en a besoin pour soigner les personnes dans les hôpitaux, c'est évident. Si à cette occasion, on fait le test, c'est une occasion de plus, j'allais dire, de renforcer le dépistage. Et on a insisté là-dessus tout à l'heure. Un des moyens de lutte contre cette épidémie, c'est de mieux identifier les personnes infectées pour leur permettre d'avoir accès le plus vite possible à un traitement. Donc, toutes les occasions qui permettraient de renforcer le dépistage sont des occasions à évidemment utiliser.
Mona nous appelle au 01 45 24 7000. Mona, bonsoir, soyez la bienvenue sur Inter et on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je voulais, dans un premier temps, alors je m'adresse anonymement parce que, on diabolise encore la maladie. Dans un premier temps, je voulais remercier l'intervention du professeur Molina et lui dire qu'il a fait une prestation radiophonique excellente. Il me reconnaîtra peut-être, puisqu'il m'avait demandé d'intervenir lors d'un reportage et je n'ai pas voulu parce que je ne voulais pas qu'on voie mon visage. Donc à la radio, c'est plus facile.
Allez-y, on est content que vous soyez là.
Simplement pour dire que, encore une fois, même au travail, il est très difficile de parler de sa maladie. Parce qu'on nous stigmatise et pourtant je travaille dans une entreprise depuis très très longtemps. Et il est très difficile de parler de la maladie. Et autre chose aussi, par rapport à la pilule et notamment le fait d'avoir des enfants. Moi, j'ai des enfants de 29 et 26 ans. J'ai eu la chance d'avoir un gynéco qui m'a dit « Vous pouvez en faire même si j'ai été mise de côté quand j'accouchais en disant « J'espère que vous ne ferez pas un deuxième enfant ». Voilà, donc c'est la double peine. Et d'affirmer qu'à mon travail, je ne peux toujours pas en parler, même en 2018.
Mona, je peux vous demander depuis combien de temps vous savez que vous êtes séropositive ?
85.
Et donc depuis 1985, au travail, vous n'en avez jamais parlé ?
Il y a quelques personnes, par le fait de quelques rumeurs, effectivement, ont été au courant. Mais sinon, je suis obligée, effectivement, je ne peux pas le divulguer, parce qu'obligatoirement, on stigmatise et ça peut freiner votre carrière, voilà, malheureusement. Et c'est dans la fonction publique, hein, pour le coup.
Et vous n'avez jamais eu la tentation, je repense au coup de fil de Lucie tout à l'heure, de laisser traîner les médicaments, en fait, hein, à un moment de la provoquer, cette conversation, pour que quelqu'un aille au bout et vous pose la question.
Alors, j'ai provoqué la conversation avec mon entourage, mes amis, etc. Et bizarrement, la semaine dernière, j'ai dîné avec mon ancienne directrice, et elle n'était pas sûre, alors que j'ai travaillé avec elle pendant 15 ans, et à un moment donné, de façon très frontale, m'a dit « Mais tu es malade du sida ». Et bizarrement, j'ai réagi, je me sentais complètement diminuée, stabilisée, parce que j'étais persuadée qu'elle était au courant. Et ça a été une double peine de nouveau, parce que de pouvoir réaffirmer, et là pour le coup devant elle, puisque ça n'était plus ma directrice, effectivement, je l'étais. Voilà, donc c'est encore douloureux, mine de rien.
Et pardon, Mona, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que ça vous manque, en fait, de ne pas pouvoir en parler ? Est-ce que vous avez ça, quand même ? Est-ce
que
vous vous dites parfois, le gars qui a la machine à café, je m'entends bien avec lui, j'aimerais tellement pouvoir lui dire. Ça vous manque ou pas ?
Ça me manque, ça dépend des relations que j'ai. Par exemple, j'ai découvert un collègue qui m'a avoué être malade du sida, et pour le coup, lui, il est plus empêché que moi d'en parler, et pour lui il est hors de question de le divulguer. Donc moi j'ai un peu plus d'aisance que lui pour le coup, parce que malheureusement plus ancienne dans la maladie, mais voilà, c'est encore douloureux même quand je l'évoque, même avec des amis, parce que je pense qu'ils me voient comme quelqu'un et de fragile et de fort en même temps, puisque je suis encore là, hein, 85, calculé, ça fait 33 ans. Donc voilà. Mais je voulais juste dire que je voulais intervenir à la radio pour le professeur Molina, le remercier de ce parcours avec lui. Voilà.
Eh ben, il vous entend, Jean-Michel Molina, si vous voulez dire un mot à Mona.
Oui, ben écoutez, merci beaucoup, je vous ai reconnu, bien entendu. Et écoutez, voilà, vous avez toute mon affection. Et je sais que c'est un combat long et difficile. Je voulais vous dire que vous n'avez plus le sida actuellement. Hein. Vous avez une infection qui est parfaitement contrôlée, maîtrisée. Et donc... vous pouvez avoir, j'allais dire, une vie comme tout le monde, hein, maintenant, en poursuivant le traitement comme vous le faites depuis des années, et avec votre sérieux et votre courage.
Et merci.
Je vous remercie.
Et merci à vous, Mona. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est à vous, du coup, qu'on va donner le mot de la fin. J'aime bien finir sur une note positive. C'est celle de Delphine qui m'a fait rire. Alors, profitons-en. J'ai trouvé la solution pour que les hommes ne tergiversent plus quand il faut mettre un préservatif. Je ne prends plus de contraception. Ils ont trop peur d'avoir un enfant, beaucoup plus que d'attraper le sida. Voilà une remarque frappée au coin du bon sens, Delphine. Et on vous remercie beaucoup. On a entendu les 4 bips. Merci à tous d'avoir participé à cette émission.